Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, dans Le Visage du Monde, nous allons parler d'un phénomène intrigant qui se déroule au Japon, les disparitions volontaires. On appelle les personnes qui font ce choix les évaporés. C'est d'ailleurs le titre qu'ont donné à leur livre Léna Mogé et Stéphane Rémael, publié aux éditions des Arènes, Les évaporés du Japon. Ce livre est une enquête journalistique agrémentée de photos dont je vais vous lire un passage. Le témoignage d'une femme qui a choisi, un jour, de disparaître. Ils sont 90 000 à prendre cette décision chaque année dans l'archipel. Ils croulent sous les dettes, ont échoué à leurs examens, se retrouvent au chômage, subissent une déception amoureuse et ne peuvent le supporter. Alors, ils partent. Ils s'évaporent. Voici l'histoire d'Ayae, que les auteurs ont rencontrée. Elle s'est évaporée il y a 21 ans. Mon mari était boucher. J'aurais autant aimé qu'il soit croque-mort. Nous habitions une bicoque en bois héritée de mes parents, dans une région rurale et vallonnée, où les hivers glaciales poussent à vivre renfermé chez soi. Mon mari, Aiki, traversait à vélo les rues calmes jusqu'à la plus ancienne boucherie de la cité. Quand il gelait ou qu'il neigeait, il partait travailler à pied, le nez dans l'écharpe, les bras croisés, la démarche mal assurée tel un pingouin. Je la vois encore, cette boucherie, proprette, éclairée au néon. Le patron, un type pointilleux, exigeait de ses deux employés qu'ils se mettent en quatre pour les clients. Il fallait leur servir une viande de choix, découpée avec finesse et soigneusement emballée. Il avait un rang et une réputation à tenir. Les ragots soufflent comme la tempête là-bas, dans notre village. Aiki partait tôt le matin pour réceptionner les livraisons, puis restait toute la journée à s'activer jusqu'à la fermeture. Il devait se rendre régulièrement à l'abattoir afin de vérifier la qualité des commandes. Il ne se plaignait jamais, mais il n'aimait pas son travail. Il ne l'avait pas choisi. Son frère aîné tenait le petit commerce de son père. Lui avait pris ce qu'il avait pu. Le rythme s'est accéléré quand un concurrent a mis la clé sous la porte. Mon mari rentrait à la maison, les yeux cernés, les mains abîmées, l'air de plus en plus abattu. Il se mettait au lit sans un mot. Notre fils ne voyait jamais son père, je l'élevais seul. Quand il était à l'école, je m'occupais de la maison et des repas, je faisais un peu de sport, je lisais, je prenais des cours de dessin et de poterie. Je m'ennuyais. Un soir d'avril, alors que les fleurs de cerisier venaient d'éclore, le chef boucher, Hiroshi, nous a invités à dîner, mon mari et moi, dans un restaurant coréen. Le patron se faisait un devoir de partager des moments privilégiés avec chacun de ses salariés. Nous nous connaissions depuis l'enfance, nous étions en classe ensemble. Je l'aimais bien. Il était drôle, avec ses airs précieux et son apparence soignée, en décalage avec son métier. Passionné de cuisine, il s'extasiait de la tendreté d'un veau, de la recette d'un bœuf au gingembre ou d'une grillade aux herbes. Mais c'était le patron, et je n'osais pas m'adresser directement à lui. 3 jours après le dîner, j'étais en train de ranger la maison quand on a sonné à la porte. C'était Hiroshi, le patron. J'ai pensé qu'il était arrivé quelque chose de grave à mon mari. Il m'a rassurée. Je passais par là, je me suis dit, pourquoi pas sonner ? Il était très ému. Il est revenu, de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Il s'asseyait là, sur le futon, je lui servais du thé et des petits gâteaux. Nous ne parlions guère. Peu à peu, j'ai osé le regarder. J'aimais son parfum et ses costumes démodés. Je me suis souvenu de lui, petit à l'école, assis dans un coin de la classe ou seul dans la cour de récréation. Les autres ne se pressaient pas pour jouer avec lui. Les enfants sont cruels. Ils prononcent des mots qui font mal longtemps, des mots qui blessent, abaissent, humilient. Il se moquait parce qu'il était un bourakoumine, la caste la plus basse chez nous. Cette différence sociale ne se voit pas sur les visages, mais cela se sait. La réputation se transmet de génération en génération. J'étais une petite fille timide et je me disais qu'il devait souffrir, comme moi je souffrais. Nos rendez-vous en tête-à-tête ont duré 2 saisons, les plus beaux moments de ma vie. Jamais nous ne nous sommes effleurés. Nous nous regardions, et c'était déjà beaucoup. Et puis le 16 octobre au matin, Hiroshi est entré, s'est assis, et a lâché d'une traite, quasiment sans respirer, la langue brûlée par le thé, des mots dont je me souviens parfaitement, un à un. « Je vous aime, Ayae. Je vous aime depuis toujours. Je n'ai jamais osé vous le dire. Vous étiez si belle. J'étais fils de boucher. C'est pour me rapprocher de vous que j'ai embauché votre mari. J'étais sans voix. Il a fini par partir. Je me sentais comme une somnambule, le cerveau embrumé. Je suis arrivée en retard à l'école, j'ai cassé une pile de vaisselle. Les jours suivants, j'étais à côté de ma vie. Est-ce que j'aimais mon mari, choisi par mes parents? Les images de notre nuit de noces m'envahissaient, un sentiment de dégoût. J'avais fini par m'habituer. Et lui, Hiroshi, mon amour d'enfance, un homme fin, drôle. Je rêvais de le revoir, mais j'étais tétanisée, prise au piège d'un enfer dont je n'avais pas les clés. J'avais peur de sortir, de le croiser. Chez moi, j'appréhendais le moment où il reviendrait. Notre relation était impossible dans une si petite ville. Mon mari l'aurait forcément découvert. Il aurait été capable du pire. Je me sentais coupable, je fixais les nuages pendant des heures, je me négligeais, je n'avais plus goût à rien. Mon fils était à l'école. C'est moi qui gardais l'argent de la paye de mon mari. J'ai pris toutes nos économies. Je suis sortie en laissant la maison ouverte. Abandonner son fils. Peut-on faire pire? J'ai fait cela. Je savais où j'allais, j'avais un plan, minutieux. Rassembler l'argent liquide, prendre le train, me dissimuler sous un chapeau, partir, repartir de zéro, être prête à tout. J'ai échoué dans un hôtel bon marché de Tokyo, au milieu des tours lumineuses, des centres commerciaux et des salles de jeu. Je suis restée enfermée dans une chambre rudimentaire, pas plus grande qu'un futon. Je pensais à mon fils, à sa joie et à son énergie débordante. Mon fils qu'un rien amusé, étonné, bouleversé, qui se passionnait pour tout avec malice et appétit. Je pensais à la nature, au ciel cotonneux, à la forêt aux portes de chez moi. Promenade magique sous les arbres, jeu sur la mousse avec ce petit homme que j'avais porté. Je me demandais, qu'ai-je raté? Que vais-je rater? Les percussions que vous venez d'entendre proviennent des tambours traditionnels japonais, les taiko. Je ne sortais de ma chambre que pour me couler nu le soir dans le bain pour dames. La chaleur et les vapeurs me rassuraient. Je changeais de peau, je devenais une autre personne, sans attache, sans béquille. Au bout d'une semaine, j'ai mis ma plus belle robe, en soie claire, près du corps et des talons hauts. Je suis passée devant les banques qui se dressaient comme des temples, les magasins surchargés et bruyants, les carrefours noirs de monde. C'était la première fois que je voyais Tokyo. Il y a un monde entre ma ville et la capitale. J'ai enfin trouvé l'adresse et je me suis engouffrée dans l'ascenseur d'un immense bâtiment jusqu'à une chaîne de restaurants. Une femme maquillée au décolleté généreux m'attendait. C'était une camarade d'enfance. Elle avait épousé un homme violent. Après la ruine de son mariage, elle s'était brouillée avec sa famille. Dans le Nord, on disait qu'elle gagnait beaucoup d'argent à Tokyo. Que dit-on de moi au village ? Le dîner fut agréable, Shio, chaleureuse et franche. La vie d'une femme seule et sans argent est difficile. À 35 ans, tu n'es plus aussi désirable, mais tu es encore fraîche. Entre deux cigarettes, elle a noté un numéro sur un coin de nappe. Va le voir de ma part. Il aura du travail pour toi, à Kabukicho. Sur un espace grand comme 5 ou 6 terrains de football, Kabukicho rassemble tous les types d'attractions sexuelles. Les enseignes lumineuses exhibent des sourires aguicheurs et des jupes plissées remontées haut sur la cuisse. D'autres enseignes affichent les visages de garçons bronzés, aux cheveux dressés sur la tête. Ce sont les hosts, les confidents d'un soir, qui offrent leur compagnie aux dames le temps d'un verre, et plus si affinité. Passant devant les gorilles en costume noir plantés à l'entrée des établissements, Chiyo m'a glissé. Tu verras, si tu fais le job, il ne t'arrivera rien. Les yakuza te protégeront. J'étais mal à l'aise. La nuit était tombée, j'avais froid. Le contact de Chiyo m'a donné rendez-vous dans un bar du quartier. Quelqu'un m'a guidée entre les banquettes vides et les bars de lap dance jusqu'à un homme assis, entouré de deux gardes-chiourmes. Je me suis approchée timidement. Il avait un visage poupin, des épaules frêles, un costume noir et sirotait un jus à la paille. Au premier abord, il ressemblait à n'importe quel salarié père de famille, mais il manquait une phalange à son petit doigt. J'ai compris ces deux propositions tout de suite. Ou bien m'embaucher comme hôtesse. Il faudrait, a-t-il brièvement expliqué, divertir le client, l'inviter à se confier, le séduire afin qu'il ait envie d'aller plus loin, plus cher, dans une salle annexe. Autre option, moins rémunérée, serveuse dans l'un de ses établissements. Salaire en cash, pas de contrat, ni un mot sur le job à l'extérieur. J'ai pris serveuse. Je me suis inventé une autre vie, en jupe courte et talons aiguilles. Je travaillais dur toutes les nuits. Le reste du temps, je dormais. Chiyo est restée ma seule amie. Au bout de quelques années, les mafieux m'ont confié la gérance d'un minuscule bar de nuit. Un drôle d'endroit, ce bar. Rikiki, tout en longueur, couvert de lambris vieillots, il n'accueillait pas plus de 5 clients à la fois. Je les connaissais tous. Ils allaient et venaient au gré de la vie et des imprévus. Banquiers, médecins, artistes, salarymen, puissants et paumés, hommes mariés et éternels solitaires. Je remplissais leurs verres, j'écoutais leur misère, je buvais et fumais avec eux. Plus je les écoutais, plus ils consommaient. Ce bar, c'était ma maison. Il y avait parmi les habitués un homme d'affaires marié, père de deux enfants. Il arrivait toujours à la nuit tombée, enchaînait les verres et les compliments. Il est devenu mon amant, un amant passionné, dévoué. Nous nous sommes fréquentés 10 ans durant en cachette. Depuis qu'il est à la retraite, sa femme le surveille, je ne le vois plus. Il ne m'a jamais fait de promesse, mais grâce à lui, j'ai pu ouvrir il y a quelques années une petite épicerie près d'ici. Une épicerie, mon épicerie, vous vous rendez compte ? Si mes parents savaient, c'était inespéré pour une femme comme moi. Avec lui, j'ai toujours été évasive. J'avais peur qu'il comprenne d'où je viens. Mais c'est quelqu'un d'intelligent. Il a deviné que je suis une fille de rien, une bourracoumine. La vie de maudit est notre destin. J'ai quitté un amour impossible. J'ai fui une étiquette. J'ai voulu prendre l'air, tenter ma chance loin des odeurs de viande crue et du regard méprisant des voisins. J'ai vu des femmes misérables vendre leur corps, de pauvres types s'abîmer dans l'alcool et la mafia s'enrichir sur ce désarroi. J'ai été un fragile maillon de ce business. Je suis tombée, souvent. Je me suis relevée. Il m'a fallu 15 ans pour réunir mon courage et téléphoner chez moi, dans ma maison du Nord. Au bout du fil, une inconnue m'a expliqué que les anciens propriétaires vivaient à Kobe et m'a donné les coordonnées. J'ai mis encore une semaine à oser composer le numéro. Une voix caverneuse m'a répondu. Je savais que tu m'appellerais, maman. Je n'avais pas reconnu mon fils. C'était un homme maintenant, un homme. Il avait étudié le droit et travaillé comme juriste dans une entreprise d'import-export. Il allait bien, oui. Il viendrait me voir un week-end et qu'il aurait le temps, disait-il. J'aurais aimé qu'il coure à ma rencontre. J'ai patienté. On s'est retrouvés dans un café, comme deux étrangers, et il m'a accompagnée jusqu'à chez moi, préférant rester à l'extérieur. C'est aujourd'hui un beau jeune homme au regard décidé. Il m'a raconté que son père lui avait longtemps fait croire que j'étais en voyage. Puis un drame est arrivé. Le patron de la boucherie s'est suicidé. Par testament, il a légué son entreprise à son plus ancien salarié, mon mari, et à moi. Mon ex-mari a mis tout son argent de côté pour payer des études à son fils unique. Il est mort l'hiver dernier. Une voiture l'a fauché. Mon fils m'a dit « J'étais seule au monde, j'avais besoin de toi, je t'en voulais. » Il n'était pas bavard. C'était trop tard. Il ne me pardonnera pas. C'était Le Visage du Monde sur Radio Sainte-Afrique. Merci à Jean, à la technique.